Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Au Proche-Orient, les militants du Hamas tendent la main à leurs frères ennemis du Fatah. Le mouvement palestinien vient de dissoudre un conseil administratif mal perçu par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui est aussi l'un des membres fondateurs du Fatah. Le géopolitologue Frédéric Ancel va nous dire s'il peut y avoir des résultats concrets à cette décision. Dans l'enquête sur l'attentat de Londres vendredi dernier, un deuxième suspect a été interpellé dans la banlieue ouest de la capitale britannique. Précision à suivre d'Antoine Gignot. En Russie, un film sur les amours du dernier tsar provoque l'ire des ultra-orthodoxes et conséquence, le premier exploitant russe de salle de cinéma renonce à projeter Mathilda, titre de ce film. Correspondance de Claude Bruyot dans un instant. En France, le journaliste Lou Bureau est arrivé à Paris, un jeune homme fatigué après 51 jours de détention en Turquie et dont le sort n'est pas réglé. Nous entendrons son père Loïc Bureau. Le journal du dimanche révèle aussi une enquête inquiétante menée chez les élèves infirmiers. Nous ferons compte rendu avec Sarah Petitbon. Et puis à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du Globe et Nabila Hamel. Est-ce le début d'un rapprochement significatif entre les frères ennemis palestiniens? Le Hamas semble en tout cas tendre la main au Fatah. Le mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza vient en effet de dissoudre un comité administratif controversé, un conseil qui était perçu par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas comme un gouvernement parallèle. Annonce qui intervient à quelques jours après la visite en Égypte d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas. À court terme, toutefois, le géopolitologue Frédéric Ancel ne voit pas de débouchés concrets à cette politique.
Aujourd'hui, le Hamas se trouve dans une situation très complexe. Il est très isolé sur la scène internationale. Le quartet ne le reconnaît pas. L'Iran ne le soutient plus. Il reste que le Qatar, finalement, pour le soutenir. Il est en butte à l'opposition très dure du président égyptien Al-Sisi à la frontière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Hamas, en tant qu'émanation palestinienne des frères musulmans, est très durement boycotté par l'Égypte. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a un rapport de force qui pousse le Hamas et certains de ses chefs pragmatiques à tenter effectivement de rejoindre l'autorité palestinienne. Moi, je suis très circonspect. Après 9 tentatives en 13 ans de rapprochement, alors réel ou supposé, moi je pense que le Hamas a systématiquement joué la politique du pire. Peut-être que ça ne sera plus le cas dans les prochaines années, mais si jamais il tendait réellement la main à Mahmoud Abbas, au président de l'autorité palestinienne, eh bien ce serait effectivement l'illustration d'un rapport de force devenu trop catastrophique pour lui.
Le géopolitologue Frédéric Ancel était avec Laure Verneau. En Afghanistan, un attentat fait 4 morts et 14 blessés dans le sud-est du pays. C'est un engin déclenché à distance par un téléphone portable qui a explosé sur le marché de la ville de Khost. Pas de revendication pour le moment. Et puis au Pakistan, une bombe a également explosé dans une zone tribale du nord-ouest du pays. Un responsable local et 4 policiers ont été tués. L'enquête sur l'explosion avortée d'une bombe artisanale dans le métro de Londres vendredi dernier, cette enquête continue à avancer. Attentat revendiqué par le groupe islamique qui a fait 29 blessés. Les policiers s'orientent toujours vers plusieurs suspects. Hier, c'est un jeune homme âgé de 18 ans qui a été arrêté dans la zone portuaire de Douvres. Et la nuit dernière, une nouvelle interpellation a eu lieu dans la banlieue de l'ouest de Londres. Antoine Gignot.
C'est un peu avant minuit que les policiers ont interpellé un jeune homme de 21 ans à Hounslow, en banlieue ouest de Londres. Il a passé la nuit au poste, tout comme l'autre suspect arrêté par les hommes de la brigade antiterroriste à Douvres hier matin et qui se trouvait à ce moment-là dans la zone portuaire au sud de l'Angleterre, à proximité des quais d'embarquement des ferries qui transportent les voyageurs vers la France. Les enquêteurs ne donnent pas de détails, mais expliquent qu'ils ont récupéré plusieurs objets sur place et qu'ils ont perquisitionné dans la foulée au domicile d'un couple de retraités très investis dans l'aide à l'enfance et décoré par la reine en 2009 pour avoir hébergé à de nombreuses reprises des enfants réfugiés. Là aussi, c'est une opération qui a été menée en grande banlieue à environ 1 heure de Londres, à Sunbury sur la Tamise.
Les précisions d'Antoine Gignot, notre correspondant permanent à Londres. En Russie, 100 ans après la fin du régime impérial et la révolution bolchévique, on ne touche pas à la mémoire du dernier tsar du pays, Nicolas II, levé de boucliers des ultra-orthodoxes autour d'un film qui évoque la romance de l'empereur avec une célèbre ballerine russe. Les religieux menacent de mort le réalisateur et ils auraient même mis le feu à un cinéma. La sortie de ce film, Mathilda, le 26 octobre prochain, est plus que compromise, Claude Bruyot.
L'offense envers les sentiments religieux est un délit caractérisé par une loi depuis 2013 en Russie, dans le prolongement de l'affaire des Pussy Riot. Le Kremlin et la hiérarchie orthodoxe n'avaient sans doute pas anticipé l'effet démultiplicateur de cet interdit. Dans la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, on brûle des voitures, on menace de mort ceux qui tentent de raconter la romance de Nicolas II avec une ballerine, au prétexte que le dernier tsar de Russie est un saint orthodoxe auquel on ne touche pas. Pour le cinéaste Pavel Lungin, cette censure qui vient finalement d'une partie de la foule n'annonce rien de bon.
C'est tragique, c'est triste, parce que c'est la mort de la culture en principe, parce que maintenant on peut prendre un livre sur un insulté, brûler un livre, fermer le spectacle, on peut fermer les expositions, tout ça au nom de l'orthodoxie, au nom de la religion. Moi je pense que c'est un prétexte pour se manifester et pour faire peur.
La peur qui gagne encore du terrain à 5 semaines de la sortie du film, le premier exploitant de salles de Russie a renoncé hier à projeter Mathilda.
Correspondance signée Claude Brouillot depuis Moscou. En France, le journaliste Lou Bureau est désormais libre. Le jeune homme de 27 ans est arrivé sur le sol français ce matin, un peu avant 9h, après 51 jours passés derrière les barreaux en Turquie. Fatigué après un long voyage, il a évoqué devant les caméras ses conditions de détention, d'abord difficiles en garde à vue, puis un petit peu plus apaisées une fois placé en prison. Son père, Loïc Bureau, a ensuite pris la parole pour évoquer l'avenir de son fils. Tout n'est pas réglé, car Lou Bureau est toujours accusé de terrorisme par Ankara.
Il y a un autre combat à mener, hein, parce que le procès qui va suivre, hein, on n'a pas de date ni d'agenda pour le procès. Ce procès donc peut le condamner, et s'il est condamné, il est sous la menace d'un mandat Interpol, il peut plus faire son métier. Donc il y a véritablement un deuxième combat à faire, et puis évidemment il y a aussi pour Lou, actuellement donc il a perdu tout son matériel, il a même plus d'ailleurs les cahiers qu'il avait écrits en Syrie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de récupérer. Mais on va dire que là, on est quand même très très loin de l'essentiel qui était d'abord sa libération. Et puis la deuxième chose qui serait essentielle, c'est-à-dire le fait qu'il soit lavé de tout soupçon, en tout cas, ou qu'il soit éventuellement condamné à une peine de prison qui corresponde à son emprisonnement, ce qu'il a fait actuellement. Voilà.
Des propos recueillis par Jules De Kiss. C'est une étude inquiétante sur la santé des futurs infirmiers qui est révélée ce matin dans le journal du dimanche. Enquête menée par la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers auprès de plus de 14 000 jeunes entre le 23 février dernier et le 9 avril. Enquête que vous avez lue pour nous. Sarah Petitbon, bonjour.
Bonjour Anne.
Les résultats sont extrêmement préoccupants.
Oui, elle révèle que plus de la moitié des étudiants infirmiers interrogés ont vu leur état de santé se dégrader depuis leur entrée en formation. Alors par quoi cela se traduit-il ? Eh bien par des idées suicidaires pour plus de 7% d'entre eux, des dépressions et des crises d'angoisse pour plus d'un tiers et par un épuisement physique pour les trois quarts. Plus de la moitié des étudiants ont même pensé interrompre leur formation, affirme-t-il. Ils sont 76% à vouloir tout arrêter en deuxième année et plus de 80% en dernière année. Pour s'en sortir, plus d'un étudiant sur quatre affirme n'avoir pas d'autre solution que de prendre des psychotropes et ce chiffre atteint 36% pour les étudiants de troisième année. Un chiffre très élevé, c'est le double de la consommation de psychotropes dans le reste de la population adulte dans notre pays. Alors pourquoi un tel mal-être ? Les étudiants évoquent des conditions de travail très dures lors de leur stage, des stages au cours desquels ils affirment être livrés à eux-mêmes. Ils dénoncent aussi le harcèlement dont ils font parfois l'objet de la part de certains soignants et même de la part du personnel encadrant de leur formation. Ces chiffres inquiétants sont pour les étudiants en santé, toutes spécialités confondues, une manière d'alerter à nouveau sur leurs conditions de travail. On se souvient il y a quelques mois d'une autre étude qui révélait le mal-être des étudiants en médecine. 66% des jeunes praticiens révélaient alors souffrir d'anxiété et plus de 20% avoir déjà eu des idées suicidaires au cours de leur formation. Aujourd'hui, donc, les élèves infirmiers demandent à ce que soit repensée en profondeur leur formation et celle de leurs encadrants.
Merci Sarah Petitbon pour votre compte-rendu. Il est 12h40 sur France Culture, c'est la face cachée du globe avec vous Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Anne. Bill de Blasio, le maire de New York, semble bien parti pour un nouveau mandat. Celui qui se veut un antidote à la politique de Donald Trump l'a remporté haut la main à la primaire démocrate mardi et a déjà engrangé 5 millions de dollars pour sa campagne. Il lui restera à affronter le 7 novembre un ex-policier sans étiquette et la républicaine Nicole Malliotakis dans une ville qui avait déjà voté à 80% pour Hillary Clinton à la présidentielle de 2016. 1 000 milliards de dollars, c'est ce que pèse le fonds souverain de la Norvège. Créé en 1998 pour recueillir les revenus pétroliers et gaziers du pays et en faire profiter les générations futures, ce fonds, dont la valeur a été mise à jour mardi, vaut 2,5 fois le produit intérieur brut du pays. C'est un record pour un fonds souverain. Celui du Qatar arrive loin derrière avec 300 milliards de dollars. L'opposition togolaise est vent debout contre un nouveau mandat du président Faure Gnassingbé et prévoit une grande mobilisation dans les prochains jours. Monsieur Komi, tout d'abord, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Bordeaux. Le troisième mandat de celui qui a succédé à son père, Étienne Eyadema, court jusqu'à 2020. Ses opposants le soupçonnent fortement de vouloir se maintenir au pouvoir via une réforme constitutionnelle qui prévoit de limiter les mandats présidentiels à deux, mais sans compter ce qu'il a déjà exercé. Est-ce ce signal qui pousse l'opposition à réagir aujourd'hui?
Je pense qu'on peut noter trois signes. Tout d'abord, c'est le non-respect de l'accord qui a été signé entre le pouvoir et l'opposition en août 2006. Donc, ça fait 11 ans que l'opposition réclame l'application de ces accords. Deuxième signe, c'est la non-rétroactivité de la réforme constitutionnelle si jamais celle-ci venait à être votée. Ça veut dire que Faure, qui est au pouvoir jusqu'en 2020, pourra se représenter, aura 10 ans de mandat devant lui. Il aura fait 30 ans de mandat, alors que son père en a fait 38. Troisième signe, c'est le mensonge du pouvoir érigé en mode d'action politique. Depuis plus de 10 ans que Faure est au pouvoir, on est toujours dans le dilatoire, dans la diversion. Je pense que M. Faure Gnassingbé est un élève vraiment assidu de Machiavel. Voilà.
Une coalition de 14 partis a annulé un rassemblement prévu vendredi, mais elle mise sur des manifestations plus importantes les 20 et 21 septembre. Quel est son poids aujourd'hui et jusqu'où peut-elle aller?
Le poids de l'opposition dans son ensemble me paraît très très important à l'heure actuelle au Togo. Ceci au regard des manifestations qui ont eu lieu depuis le 19 août, non seulement à Lomé, mais pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, je pense que cette opposition a réussi à imposer l'examen du projet de réforme constitutionnelle au pouvoir. Et je pense que si l'opposition n'avait pas ce poids-là, le pouvoir ne reculerait pas. Mais il faut souligner une chose, c'est que le pouvoir a la force entre les mains. Et donc, on est dans un rapport de force. On ne sait pas très très bien. Peut-être les jours, les semaines prochaines vont nous montrer l'issue de ce rapport de force.
Merci à vous, Komi, tout d'abord. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Bordeaux. À moins d'un mois des élections législatives du 15 octobre en Autriche, la droite fait la course en tête avec un candidat atypique qui veut incarner le renouveau. Sébastien Kurz n'a que 31 ans, ce qui ne l'empêche pas de se sentir les épaules assez larges pour affronter les critiques, alors qu'il envisage de former une coalition avec l'extrême droite. C'est une correspondance de Blaise Gauquelin à Vienne.
Il se voit déjà à la tête de l'Autriche, lui l'éternel plus jeune ministre qui voudrait devenir le plus jeune chef de gouvernement du monde entier, exception faite de la régente de Saint-Marin. Personnalité politique la plus populaire de la petite Autriche prospère, Sébastien Kurz permet aux intentions de vote en faveur du vieux parti conservateur qu'il représente de s'envoler littéralement. Il devance maintenant de 8 points ses principaux rivaux et ce grâce à une image de modernité alliée à un discours de fermeté totale sur l'immigration. À l'âge où d'autres partaient en Erasmus, lui préparait méticuleusement sa conquête du pouvoir, grand patron, baron de province, éditorialistes incontournables, tous ont été méthodiquement approchés puis séduits par ce wunderkind qui ne néglige aucun détail et répond aux SMS des journalistes jusque tard dans la nuit. Il envisage de former une coalition après le 15 octobre avec le sulfureux parti d'extrême droite, le FPE, allié à Marine Le Pen. Il fait donc tout pour anticiper les dégâts qu'une telle alliance ne manquera pas de provoquer pour l'Autriche en termes d'image de marque.
Le fameux deuxième L qui a manqué sur le maillot floqué des joueurs du club de Montpellier fait l'affaire de la ville de Montpellier avec un seul L. Les habitants de cette municipalités du Vermont aux États-Unis en sont devenues les bénéficiaires. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi, ça sera globalement pluvieux et même orageux sur une grande moitié est. Les bords de la Méditerranée sont épargnés avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Et les températures, 15 à Cherbourg, Strasbourg et Bordeaux, 16 à Lille, 20 à Marseille et jusqu'à 21 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. À la technique, c'était Jean Frédérix.